ordinateur dans mon bureau parce que...
Pour commencer, je crois.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
J'étais en train de dire à mes frères et sœurs qu'il faut que je change le ventilateur dans mon bureau parce qu'il est mort. Là. Il n'a pas supporté la canicule. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen, amen. Seigneur, veuille bénir ces paroles afin qu'elles le touchent et bénissent mes frères et sœurs qui écoutent ça sur Internet, Jésus, ainsi que tous ceux qui sont là avec moi aujourd'hui. Amen. La vie avec Jésus, c'est une vie de foi, c'est une vie d'actes de foi, puisque vous savez bien que la Bible nous dit que la foi sans les actes, c'est mort. C'est un concept, une croyance, c'est une croyance stérile. C'est une vie de confiance en Dieu qui nous fait savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on cherche Dieu, on comprend quelles sont ses intentions, ses attitudes, ses lois, ses commandements. On trouve tout cela et on sait comment trouver Dieu et on sait donc comment trouver notre rémunérateur, c'est-à-dire celui qui nous rémunère. Qu'est-ce que ça veut dire rémunérer? Si vous ne savez pas, c'est dommage. Pour vivre une vie chrétienne intéressante, il faut pouvoir constater que les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Si un chrétien ne constate pas par l'expérience que les promesses de Dieu sont vraies, sa vie chrétienne, elle est morne, elle est vide de sens. Moi, ça m'embêterait, hein, je comprends pas ceux qui disent « Oh, le temps des miracles est fini, c'est terminé. » Le plus petit exaucement de prière, c'est un miracle. Pourquoi prier si on ne croit pas que Dieu fait des miracles encore, que Dieu n'agit pas encore? Dieu sait très bien tout ça. Et c'est pourquoi il nous a lancé un défi formel, celui de le mettre à l'épreuve. Comme je vous disais il n'y a pas longtemps, dans une de mes prédications, ce défi se trouve dans un contexte absolument inattendu. On le trouve dans le prophète Malachie au chapitre 3, verset 10. Et depuis que j'ai trouvé ce verset, je l'ai mis en pratique. Partout où j'ai été dans le monde, je l'ai enseigné. Ce secret de la mise à l'épreuve de Dieu se trouve dans un contexte, dans le contexte des finances. Vraiment, Dieu nous a permis de bénéficier d'une expérience vraiment peu commune. Alors que nous avions des difficultés financières, comme tout le monde a des difficultés financières, même les milliardaires ont des difficultés financières. Encore dernièrement, avec ces 2000 femmes et leurs enfants au Burkina Faso, qui ont dû fuir leur village du nord, du pays parce que les djihadistes avaient égorgé leur mari, c'était un défi pour nous, parce que nous connaissons bien ce pays, nous connaissons ses habitants, j'ai depuis 22 ans prêché là-bas, je ne sais pas dans combien de centaines de villages, donc je me sens très concerné, et un ami hollandais a fait un don pour qu'elle puisse avoir un forage et un château d'eau. C'est vrai que ça coûte très cher de faire un forage et ensuite de construire un château d'eau, c'est pas rien du tout, surtout que c'est un château d'eau qui contient 30 000 litres d'eau, c'est pas un petit machin, hein. Et notre frère Philippe Navez de la communauté est allé sur place pour superviser les travaux. Donc le château d'eau existe et ça, c'est formidable, l'eau est là. Le château d'eau est monté, l'eau est là, mais elle est où? Elle est en dessous. Elle est sous terre, elle n'est pas montée dans le château d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, d'habitude, elle ne monte pas. Je ne sais pas si vous savez ça, mais en général, l'eau, elle descend, elle ne monte pas. Pour la faire monter, Il faut toutes sortes de mécaniques. Alors on pourrait dire, ben Dieu est tout puissant, on va prier pour que Dieu fasse monter l'eau. Ça, c'est de la bêtise. Dieu peut le faire, mais il ne le fera pas parce qu'il nous a donné l'autorité pour faire les choses. Il faut une pompe. Il faut une pompe. Et pour faire marcher la pompe, il faut des panneaux solaires parce que là-bas, il n'y a pas l'électricité qui arrive. C'est vraiment un point perdu, de perdu, de perdu. Alors, afin que l'eau puisse sortir de terre, remplir le château d'eau, il faut mettre une pompe avec des panneaux solaires pour que ça monte. Or, il manquait de l'argent pour ce matériel et la main-d'œuvre, parce que ceux qui vont faire ce travail, ils ne font pas ce travail en disant « Oh, nous le faisons pour la gloire de Jésus, alléluia !» Non, ce sont des professionnels, ce sont des ouvriers, il y a une main-d'œuvre à payer. Et il manquait 11 000 euros. Notre petite communauté n'avait pas cette somme. Que faire ? Prier, bien sûr, prier. Mais pas que. Il fallait agir. Alors on a calculé, cherché à savoir qu'est-ce qui était le plus urgent. Il faut mettre de l'intelligence dans ce qu'on fait. Et le plus urgent, c'était de nourrir 60 vieilles dames complètement isolées, abandonnées de tous, complètement démunies. Parmi ces 2000 femmes, il y en avait qui arrivaient à se débrouiller. Mais ces 60-là, c'était des vieilles dames qui étaient complètement à l'abandon. Et on a décidé, on a demandé à notre frère Nicolas, et lui, c'est lui qui a fait son enquête, et il nous a dit, voilà, il y a 60 personnes, là, il faut... Alors on a fait un appel, et il y a 8 personnes, 8, il y a 10 000 personnes qui ont écrit « Amen, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia, Amen, 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 Amen !» Je me moque un peu, hein. Mais sur les 10 000, il n'y en a que 8 qui ont fait un don. À notre association, c'est faisable. C'est bien de dire Amen, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Mais des fois, ça commence à devenir un petit peu casse-pied, voire Amen. Vous feriez mieux d'agir un peu, hein. Ça serait mieux. Excusez-moi de vous engueuler un peu, mais là, franchement. Amen, 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 Amen. Il y a une femme qui a donné 5 euros, elle ne pouvait pas faire plus, mais elle a fait ça au moins. Un homme a donné 10 euros, un homme a donné 20 euros, un autre 450 euros. C'est un Africain, 450 euros. Une femme a donné 270 euros, un homme a donné 200 euros, une femme a donné 100 euros, un autre a donné 10 euros. Et en tout, ça faisait 1065 euros. Alors on était content, mais c'était loin d'être suffisant. Parce que ces 60 femmes, il faut trouver les moyens de les nourrir pendant 2 mois, avant qu'il y ait de nouveau une récolte, c'est-à-dire avant qu'il y ait le forage, qu'on ait fait du maraîchage, que c'est eu le temps de pousser, pour que vous compreniez la chose. Alors la communauté, on a aussi gratté dans nos fonds de tiroir, et puis on a trouvé la somme. Bon voilà, ces 60 femmes, elles sont hors d'affaires, elles ont reçu tout ce qu'il fallait, elles peuvent manger pendant 2 mois, ça c'est bien. Mais après il y a encore 2000 femmes avec leurs enfants. Il fallait ces 11 000 euros pour faire monter l'eau dans le château d'eau, afin que ces femmes puissent le cultiver. Pour devenir autonome, c'est ça que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous rendions les gens autonomes. C'est bien gentil de faire la charité, mais il faut aussi aider les gens à devenir autonomes. Et ça, c'était notre but, c'est notre but, depuis toujours. Alors nous savions une chose, nous avions prié et nous avions agi, intelligemment. Alors nous savions que Dieu allait tenir sa promesse. Il l'a fait. Gloire à Dieu. D'un coup, boum, les 11 000 euros sont arrivés. Gloire à Dieu. Et Philippe, il va pouvoir retourner en Afrique pour superviser les travaux. Même son voyage lui a été payé. C'est pas extraordinaire. Vous voyez, quand on fait, pas seulement quand on prie, quand on dit Amen, quand on dit Alléluia, mais quand on fait, on sème, alors on récolte. Et d'ici le 1er août, tout sera fonctionnel. Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Là, on peut dire Amen, 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 voilà. Et je remercie les donateurs. Les autres, bon, ben voilà, vous êtes bien gentils, mais c'est un peu nunuche. Notre communauté sent l'urgence de chaque projet parce qu'elle va là où est l'urgence. Quelqu'un m'a même reproché d'avoir choisi des Africains plutôt que des Français. Mais bon sang de bonsoir, en France, il y a toujours des services sociaux pour aider les gens qui ont besoin. En Afrique, il n'y a rien de tout ça. Rien, mais rien. Vous ne croyez pas? Venez avec moi, je vais vous emmener, vous allez voir. Vous allez passer 15 jours avec ces femmes, vous allez voir ce que c'est. À chaque fois que nous nous trouvons devant une urgence comme celle-là, et depuis 22 ans qu'on y va, on en a trouvé des urgences. Hein. Eh bien, le diable cherche à nous incriminer en nous disant « Oui, alors vous dites que vous avez la foi, vous pensez que vous avez la foi, vous dites que vous faites ce qui est le plus cher à Dieu, l'évangélisation, l'humanitaire, vous parlez d'aider, n'est-ce pas, les oubliés de la terre ». Vous dites que Dieu compte sur vous, mais où sont vos frères qui devraient vous aider? Ils se moquent de nous, ils se moquent de nous. Et il ajoute, vous avez donné la priorité aux abandonnés, mais Dieu vous a abandonné. Vous savez quoi? C'est un menteur, c'est le père du mensonge. Ce que nous avons à faire, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Malachie 3, 10. Mettez-moi à l'épreuve au sujet de l'argent. Très souvent, les problèmes immédiats sont des problèmes d'argent. La personne qui a semé, qui a donné 5 euros, elle va être expulsée de son appartement d'ici 2 mois. Elle a besoin d'argent, cette femme. J'ai dit, alors, vous avez trouvé? Elle me dit, soit c'est trop petit, soit c'est trop cher. Mais Dieu va répondre, vous croyez pas ça? Bien sûr que Dieu va répondre, parce que quand quelqu'un sème, il récolte. Et souvent, l'obstacle, c'est un manque d'argent. Faut pas se voiler la face. Le diable nous accuse souvent au sujet du manque d'argent. On ne peut pas faire ci, parce que c'est pas d'argent, on peut pas gagner rien, il n'y a pas d'argent, pas d'argent. Il accuse Dieu d'être indifférent aux problèmes d'argent des gens. Ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Amen. Il ment. Dieu dit dans Agée, le prophète Agée, chapitre 2, verset 8, « L'or et l'argent sont à moi. » Bon, alors, donne-nous. Non, je ne donne pas comme ça. Il donne à ceux qui obéissent à son commandement, pas aux autres. Dieu ne donne pas l'argent à n'importe qui. Par contre, n'importe qui peut voler l'argent en trompant, en rusant, en exploitant ou en faisant l'abominable prière du Kol Nidre. Hein? Pour ceux qui m'écoutent et qui savent ce que ça veut dire. Un chrétien n'agit pas comme un païen. Un chrétien, il prie et il fait un acte de foi. Il fait ce que Dieu dit. Mon acte de foi, si je veux de l'argent pour la mission ou pour un besoin familial ou communautaire, eh bien, c'est de commencer par en donner moi-même. Je veux de l'argent, je donne de l'argent. C'est la loi de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'accomplis pas pour vous, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui fouillent dans la parole de Dieu pour trouver comment il faut faire. Qu'est-ce que Dieu veut? Il est notre seul pourvoyeur. Nous faisons ce que... Mais le problème, c'est qu'ici, on a tellement de possibilités d'avoir... il suffit d'aller dans les bureaux, de pleurnicher un petit peu, puis il y a toutes sortes de possibilités sociales pour avoir tout ce qu'on veut. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous soigne. Là-bas, allez à l'hôpital là-bas, Ouagadougou. Allez là-bas, malade. Si vous n'avez pas l'argent, on vous laisse crever. Mais vraiment, j'ai vu une femme qui s'appelle Madame Bouddha, qui était la femme du ministre des Finances. Elle était assise là à l'hôpital, dehors. Et puis elle faisait de l'air à son gamin qui avait les yeux révulsés. J'étais avec Nicolas, il me faisait visiter l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Ben, elle fait de l'air à son fils. Je dis, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a votre fils? Alors, elle parlait français, elme dit, je me rappelle plus ce qu'il avait, une méningite. Je dis, mais personne ne le soigne? Ah non, parce que pour qu'il soit soigné, il faut que j'aille chercher des médicaments, mais j'ose pas y aller, parce que si j'y vais, j'ai peur qu'il meure pendant que j'y vais. Et personne n'allait. Je lui dis à Nicolas, mais va chercher, donnez-moi ce machin. Je savais pas que c'était la femme du ministre. Hein. Je savais pas qu'elle était pleine de pognon. Je lui dis, c'est encore une pauvre femme, donc donnez-moi l'ordonnance. Avec Nicolas, on a couru à la pharmacie, on a acheté les médicaments. Puis tout de suite, une infirmière est venue, puis elle l'a soignée, puis voilà, puis le gamin s'en est sorti. On est devenus amis depuis. Avec les parents. Monsieur Bouddha a été ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis pendant plusieurs années après. Mais là-bas, c'est comme ça. J'ai vu des femmes pleurer devant sur le lit, devant des petits gamins, puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors la bonne infirmière, qui était une chrétienne, me dit, ben son mari est parti parce qu'il veut pas voir l'enfant mourir. Je dis, mais il va mourir? Elle me dit, oui, s'il n'est pas soigné, il meurt. Je dis, mais pourquoi il n'est pas soigné? Mais parce qu'il n'y a pas d'argent. Et pourquoi il n'y a pas d'argent? Mais parce que c'est des pauvres. Ici en France, ça n'existe pas. Vous arrivez à l'hôpital, vous êtes soigné. Là-bas, non. Alors, j'ai payé les médicaments, mais n'avait pour quoi une misère. C'était 10 ou 12 euros, je ne me rappelle plus. Mais là-bas, c'est comme ça, c'est dur, c'est difficile, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien. Là, par exemple, on a fait ce, ce château d'eau avec les pompes qui va monter l'eau. Mais juste à côté, il y a un hôpital. Cet hôpital, il a pas d'eau. Pour soigner les malades qui viennent à l'hôpital, il faut aller chercher de l'eau à 5-6 kilomètres dans un marigot, puisé avec des seaux, pour emmener à l'hôpital, bouillir l'eau pour soigner les malades. Voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi vous avez choisi l'Afrique? Il n'y a pas assez de pauvres en France? Occupez-vous des pauvres en France plutôt que de râler que je m'occupe de l'Afrique. Puis venez un petit peu avec moi vous rendre compte qu'est-ce que c'est la vraie pauvreté où il n'y a pas possibilité d'être assisté. Excusez-moi, je suis un peu en rogne, mais c'est quand même terrible. On vit dans un monde terrible. Ah, mais pourquoi Dieu fait rien? Dieu a dit que c'est à nous de le faire. Il a dit que c'est à nous de le faire. C'est nous qui devons prendre soin des pauvres et des malheureux, des veuves et des orphelins. Si on fait ce qu'il dit, en retour, il prouve son alliance en ouvrant les écluses des cieux pour nous. C'est vrai! Je témoigne depuis 68 que je suis converti que c'est vrai. Pas 68, parce que je me suis converti en 68, mais c'est en 70 que j'ai appris ce verset. Je n'avais pas vu avant. C'est Frère Osborne qui m'a ouvert les yeux sur ce verset. La plupart des gens pensent que Dieu est spirituel et que l'argent c'est charnel. C'est une notion qui vient des gens religieux qui nous assurent que l'argent est mauvais, que nous devons nous en méfier, que nous ne devrions jamais en désirer. Dans la religion, on nous dit que le seul moyen de rester humble et d'être soumis à la volonté de Dieu, c'est de rester pauvre. Et il se base sur un verset qu'il transforme. Ils disent « l'argent, c'est la source de tous les maux ». C'est faux. Le verset dit pas ça. Le verset dit « l'amour de l'argent est la source de tous les maux ». Si vous aimez l'argent, là, j'aime l'argent, je veux de l'argent, je veux le mettre dans mon compte en banque pour mes vieux jours, tu vas crever ton argent, compte en banque, tu nini. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Vous savez quoi? Cette façon religieuse de penser, elle est diabolique. Elle a infesté presque le monde entier. Il faut que vous regardiez l'argent comme Dieu regarde l'argent. Dieu seul sait à qui le donner en regardant qui obéit à ses commandements. Dieu seul sait ce qui pourrait s'accomplir pour porter l'évangile dans toutes les nations, pour faire de l'humanitaire, pour sauver le monde. Si chaque pasteur, si chaque enseignant de théologie, si chaque chrétien, si chaque chrétienne troquait ses préjugés religieux contre l'idée de Dieu et les attitudes de Dieu envers l'argent. On est des millions de chrétiens. On peut faire des tas de choses, mais on est mal enseigné, si bien que, ben voilà. on prie. Comme dit Jacques Brel, chez ces gens-là, on prie, monsieur, on prie. L'argent, ça représente, je vais vous choquer, l'argent, ça représente la vie. Cet argent représente, quand vous recevez votre salaire, cet argent, il représente la partie de votre vie que vous avez passée à la gagner. Je répète, cet argent de votre salaire représente la partie de votre vie que vous avez passée à gagner cet argent. Vous ne revivrez plus jamais cette portion de votre vie et vous ne toucherez, vous ne gagnerez plus jamais le même argent. Votre salaire représente une portion de votre vie sous forme monétaire. D'ailleurs, tout le monde dit, maintenant c'est devenu normal, on dit j'ai gagné ma vie. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Luc 12, 34. Où est-ce que tu mets ton trésor? Où est-ce que tu mets ton trésor? Trésor, les trésors, c'est pas des Big Mac, hein, c'est pas des pizzas, c'est pas. Le trésor, c'est l'argent. Là où est ton argent, là est ton cœur, ta vie, ton existence. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu dit « Apportez-moi votre argent et mettez-moi de la sorte à l'épreuve » Malachie chapitre 3, verset 10. Il vous demande le trésor temporel qui vous est le plus cher. Il ne vous demande pas tout, il vous demande le dixième. Alors que vous soyez millionnaire ou que vous soyez comme la pauvre veuve qui a donné deux sous, on trouve son histoire dans Marc chapitre 12, verset 42-44, ben, vous êtes sous la même loi. Jésus regardait les gens qui mettaient dans le tronc. Moi, si je commence à regarder ce que les gens mettent dans la collecte, on va dire, mais ce Michel, qu'est-ce qu'il est indiscret? Ben, Jésus, il est indiscret. Regardez ce que les gens mettaient dans la collecte. Puis il dit, cette femme, c'est elle qui a donné le plus. Les disciples ont dit, Seigneur, a donné deux sous. Jésus dit, oui, mais c'est tout ce qu'elle avait. Dieu vous dit en essence, si vous me confiez votre argent, vous me confiez votre vie. En me confiant votre argent, vous prouvez que vous me confiez votre âme, votre existence, votre être, votre vie. Quand vous mettez votre argent dans l'œuvre de Dieu, votre cœur est dans l'œuvre de Dieu. Alors de grâce, arrêtez avec vos amen. Et puis allez, faites un petit don, ne serait-ce que 5 euros. Pas pour la pompe, ça y est, on l'a. Mais il y a encore d'autres personnes à aider. Hein. La pompe, ça y est, c'est fait, on n'a plus besoin de vous pour ça. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes à aider. Vous savez combien il y a de personnes qui ont été déplacées au Burkina Faso à cause des djihadistes? 2 500 000. Nous, on s'occupe que de 2 000. Parce qu'ils sont dans un village qu'on connaît particulièrement. Mais il y en a 2 500 000. Alors, je ne veux pas 2 millions de amen, je veux des personnes qui font la volonté de Dieu, la volonté écrite de Dieu. Mais je vous dis ça, mais Dieu va vous bénir si vous le faites. Dieu va vous bénir. C'est le moyen pour que Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux, afin que vous ne soyez plus jamais dans la disette. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.